Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et en ce lundi 11 mai, pluvieux et plutôt froid.
Ah oui?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Il fait soleil dans mon cœur, moi.
Ah ben voilà.
Ah oui.
Alors si vous êtes bien installé chez vous, restez là parce que nous avons une heure à vous proposer, là. Bonne heure d'écoute, oui. Nous avons des textes axés sur la culture et la société comme à tous les lundis.
Oui, rien de moins.
Rien de moins. Et pour vous les proposer, il y a Franceline Nieuviard. Bonjour,
oui,
Franceline.
Oui, bonjour, Roger. Bonjour, Serge.
Oui, puis Roger Roy qui part.
C'est ça. Et en régie ce matin, celui qui va nous guider, celui qui est à la barre, c'est Mathieu Tessier, accompagné de Jean-Sébastien de la Liberté.
Ouais,
Ils sont deux ce matin.
Deux ce matin. Quel service!
Alors, qu'allez-vous nous proposer, Franceline?
Oui, bien moi, comme c'est bientôt la fin de l'école et plus particulièrement pour certains la fin du secondaire, le premier article sera sur le bal des finissants à célébrer en famille. C'est tiré du Bel Âge et c'est écrit par Jacqueline Simoneau. Et ensuite, je vous lirai un article qui s'intitule « Vivre avec un enfant différent ». Et un autre, L'Ordre quotidien, tiré du Journal de Montréal et l'autre de la presse du 21 avril 2015.
Ben moi, je vais vous parler des céréales qui sont encore trop sucrées. Alors, si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner ce matin, attendez, vous allez savoir qu'il ne faut pas en manger. Et je vais vous parler des changements climatiques, le troisième et dernier volet. Et c'est sérieux, c'est les victimes du climat.
Oh, bah, sûr.
On répute.
Moi, je vais vous parler de crayons. Est-ce que ça sert toujours dans cette ère numérique? Qu'est-ce que vont faire les enfants à l'école maintenant? C'est compliqué. On vit dans un contexte. Enfin. Mais là, je vais vous parler tout de suite d'un autre problème. C'est très sérieux. C'est fuir en Europe. C'est dans le Reader's Digest du mois d'avril. C'est un texte signé par Tim Bouquet. Comme on le sait, depuis 15 ou 20 ans, l'Europe fait face à un sérieux problème de tentative de migration d'Africains. Ces Africains essaie par tous les moyens de rejoindre les côtes de l'Europe, essentiellement l'Italie, à bord d'embarcations de fortune. D'où les tragédies dont nous entendons régulièrement parler, les naufrages, et selon un groupe de journalistes européens, plus de 25 000 de ces migrants africains ont perdu la vie depuis l'an 2000, souvent par noyade quand ces bateaux coulent avant d'atteindre les côtes. Mais certains Africains réussissent à se rendre et obtiennent le statut de réfugié dans un pays européen. C'est le cas de Fanus, une érythréenne dont le Reader's Digest nous raconte l'histoire. Elle vit maintenant en Suède, à Stockholm, ou près de Stockholm. Alors, Fanus a connu une enfance idyllique avec ses cinq frères et sœurs au sein d'une famille chrétienne copte dans une petite ville marchande du sud de l'Érythrée, près de la frontière de l'Éthiopie. Pourtant, un jour, en 2011, alors qu'elle n'avait que 15 ans, tout s'est arrêté brusquement. Des soldats sont entrés dans son école. Ils venaient chercher des recrues. Ils nous ont conduits dans une prison très grande et effrayante, avec beaucoup d'élèves d'autres établissements scolaires. Forte d'une population de 6,2 millions d'habitants, l'Érythrée s'est formée en 1993 après une cruelle guerre d'indépendance contre l'Éthiopie. Mais une fois la paix instaurée, les héros qui avaient mené le combat se transformèrent en dictateurs impitoyables. Les élections furent interdites, la constitution abolie et les prisons s'enrichirent de plus de 10 000 détenus politiques. Depuis 1998, l'État impose aux garçons et aux filles de 17 ans une conscription à durée indéterminée. Alors, ça peut durer toute la vie. Fanus fut finalement relâchée parce qu'elle était trop jeune pour servir dans l'armée. C'est alors qu'elle a décidé de fuir. Sans en parler à sa famille, en 2012, elle est partie à pied vers l'Éthiopie en espérant se rendre à Tripoli, en Libye, un périple de 2700 km pour ensuite rejoindre l'Europe. Elle réussit à le faire grâce à l'argent que son frère lui a fourni pour payer des rançons d'abord, parce qu'elle était souvent capturée. On demandait des rançons. Son frère, qui avait immigré en Israël, lui fournissait l'argent. Puis des passeurs, les passeurs surtout, hein, pour guider ces gens-là. Pour un montant de 3 700 $, elle put s'embarquer à Tripoli avec 700 autres réfugiés à bord d'un chalutier. Et à l'aube, le 3 octobre 2013, Fanus monta sur le pont et aperçut le scintillement des lumières à 800 mètres. C'était Lampedusa, une île de villégiature italienne la plus proche de la Libye. Près de 36 heures en mer, la fin d'un calvaire était en vue. Mais soudain, Le tout sautement du moteur diesel s'arrêta, la pompe d'assèchement avait cessé de fonctionner et l'eau s'engouffrait dans le bateau. Incapable de redémarrer, le capitaine versa du pétrole sur une couverture et mit le feu dans l'espoir d'alerter les secours sur la rive. Mais de l'essence s'était répandue sur le pont qui s'enflamma à son tour. Affolés, les passagers se précipitèrent d'un côté du chalutier qui, surchargé, commença à chavirer dans un lent et effroyable mouvement de bascule. Certains passèrent par-dessus bord. L'eau continuait à entrer. Ceux qui se trouvaient encore sur le pont n'avaient aucune chance. Fanus ne savait pas nager. Elle s'est agrippée sur le bastingage du chalutier en train de sombrer. Après 4 heures dans l'eau, Fanus fut secourue par la garde côtière, ramenée à terre et conduite à l'hôpital. Elle était sauvée. D'autres eurent moins de chance. Quelques 363 personnes, la plupart originaires d'Érythrée, se noyèrent ce jour-là. Des 90 femmes à bord, seules 5 avaient survécu. Alors, elle a été sauvée et elle a été... Elle compte parmi les 14 753 migrants à avoir rejoint l'île de Lampedusa en vie en 2013, dont près de 10 000 venaient d'Érythrée. Avec les autres survivants, elle a été conduite au centre d'accueil des réfugiés, toujours bondé, où on leur a fourni des vêtements, de la nourriture et des soins. Souffrant de stress post-traumatique et hantée par de douloureux cauchemars, elle est restée plus de 3 mois au centre. Elle voulait rejoindre la Suède, où vivent environ 45 000 Érythréens, où elle a de la famille. D'après les lois en vigueur, tous les demandeurs d'asile doivent rester dans le pays d'entrée ou éventuellement y être renvoyés. En pratique, l'Italie a tout avantage à fermer les yeux sur ces migrants déterminés à s'installer ailleurs en Europe. Craignant d'être fiché, Fanus a tenté de brûler ses empreintes digitales avec un sac de plastique en fusion. Après son transfert en Sicile, dans un centre d'immigration, elle s'est enfuie pour entamer un long périple en autobus, en train, en avion, en passant par Rome, Milan, Barcelone. Et finalement, le 20 janvier 2014, elle est enfin arrivée à l'aéroport de Stockholm. Et pour la première fois depuis près de 2 ans, elle a dormi sans peur. Fanus s'est vu accorder l'asile et son premier passeport officiel. Elle vit de l'aide de l'État dans la ville de Sundsvall, à quelques heures au nord de Stockholm, où elle étudie et partage un appartement avec 3 autres érythréennes. En apparence, elle est comme toutes les filles de 18 ans, elle joue au soccer et rêve de devenir chanteuse. Elle dit « oui, je suis heureuse », mais son visage ensuite s'assombrit. C'est l'anniversaire du naufrage. J'aimerais qu'il existe des procédures judiciaires qui permettent aux individus de demander asile et ainsi éviter des pertes humaines. Les larmes coulent, je ne pourrai jamais oublier. Une femme a accouché sur le bateau, elle s'est noyée avec son bébé. Alors, fuir en Europe, les Africains qui essaient d'accoster en Europe pour trouver des refuges et de l'asile politique.
Alors maintenant, un sujet totalement, totalement différent. Je vais vous parler du bal des finissants à célébrer en famille. C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans le magazine Le Bel Âge de mai 2015.
Vos finissants finissent bien, eux?
Oui, c'est ça. C'est un rêve aussi pour certains.
D'accord.
Alors, dans quelques semaines, ce sera peut-être le bal de finissants d'un de vos enfants ou petits-enfants. Il y a de la fébrilité dans l'air et de votre côté, vous vous interrogez sur le déroulement de la fête ainsi que sur votre rôle. Alors voilà quelques réponses. L'événement, ce bal des finissants, n'est pas banal. Au-delà du méga-party, le bal des finissants souligne la fin des études secondaires et le début d'une nouvelle étape dans la vie étudiante. Il représente également un rite de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Un moment important à partager tous ensemble. Reste que si ce jour est mémorable en émotion, il l'est également en coût. Qui dit bal de finissant dit effectivement grosse dépense. Un tel événement demande au minimum autour de 600 dollars. Et certains n'hésitent pas à dépenser jusqu'à quelques milliers de dollars pour faire vivre une journée de rêve à leur adolescent. C'est évidemment aux parents d'établir leurs propres limites. Ils doivent s'asseoir avec leur enfant afin de préparer une liste de dépenses envisagées puis déterminer la somme qu'ils sont prêts à débourser. Il arrive qu'un finissant y ajoute un peu de ses propres sous, ou encore qu'il décide de partager certains frais, comme la limousine ou le photographe, avec des amis. En tant que grand-parent, vous pouvez bien sûr proposer une aide sur ce plan, si vous êtes à l'aise financièrement. Elle sera certes appréciée. Par ailleurs, sans prendre la place des parents, profitez de la période des préparatifs pour vous informer du déroulement du bal, des activités prévues et des projets pour l'après-bal. Surtout si vous êtes proche de votre petit-fils ou de votre petite-fille, ce sera une belle occasion de discuter avec lui ou elle des règles élémentaires de savoir-vivre et de sécurité, et aussi de l'amener à réfléchir aux aboutissements possibles de cette soirée, notamment en cas d'abus d'alcool. En démontrant à ce rejeton votre intérêt pour son bal et pour sa sécurité, vous lui signifiez que vous tenez à lui et que son bonheur vous importe. Bref, plus les gens qu'il aime s'intéressent à ce qu'il vit, moins il y a de risques de dérapage. Le jour J, partagez simplement son bonheur et n'oubliez pas de prendre quelques photos pour immortaliser ce grand moment. En les regardant plus tard en sa compagnie, vous pourrez vous remémorer toute la frénésie de ces instants. Un cadeau à offrir? Si les parents ou les grands-parents payent les frais du bal, ils n'ont pas à offrir un cadeau supplémentaire. Pour marquer l'événement, ils peuvent simplement remettre à l'enfant une lettre dans laquelle ils soulignent leur fierté et leur joie de partager ce moment avec lui. Ce dernier en gardera un souvenir impérissable. Vous pouvez aussi souligner l'événement de belle façon en offrant un de vos bijoux ou un objet significatif à votre petite-fille ou à votre petit-fils. Vous préciserez par exemple que l'objet en question vous a été offert à tel moment important de votre vie et que vous voulez aujourd'hui le lui transmettre. Ce transfert d'une génération à l'autre est toujours très émouvant et surtout inoubliable. Souvent des années plus tard, l'enfant poursuit les rituels avec l'un de ses descendants. Maintenant, un après-bal sécuritaire. Le moment le plus inquiétant pour les parents et les grands-parents est assurément l'après-bal. Car si le transport pour se rendre au bal et à la soirée sont parfaitement organisés et sous haute surveillance, il en va souvent autrement pour la suite. Voici à l'intention des parents 5 moyens qu'ils peuvent prendre pour apaiser leur angoisse et les vôtres. À vous de leur refiler en douce. Premièrement, connaissez les projets de votre ado à l'avance et des mesures de sécurité mises en place. Sachez où et avec qui il sera. Parlez avec lui de la façon dont il rentrera à la maison. Encouragez-le à boire de façon responsable. 2. Discutez avec d'autres parents des mesures à prendre pour que les festivités de l'après-bal soient sans danger. 3. Recommandez à votre jeune et à ses amis d'adopter un système de vigile. L'objectif, se surveiller mutuellement pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne se retrouve seul, notamment à l'extérieur du lieu de la fête, ou ne fasse une chose qu'il risque de regretter par la suite. 4. Prévoyez avant le bal un moyen de transport sécuritaire pour le retour du jeune finissant. Offrez-lui d'aller le chercher après la soirée en lui rappelant qu'il peut vous joindre à toute heure. Si vous n'êtes pas disponible, demandez l'assistance des grands-parents, par exemple. Autre solution, quelques parents se regroupent pour louer un minibus avec chauffeur ou une limousine qui se chargera de ramener leur jeune en toute sécurité à la maison. Par ailleurs, remettez à votre ado une somme d'argent suffisante pour qu'il puisse prendre un taxi en cas d'urgence. Assurez-vous toutefois qu'il est assez responsable pour consacrer cet argent à cet usage. Vous pouvez également lui offrir des coupons prépayés, genre cool taxi. Et si la fête a lieu chez vous en votre absence, embauchez un agent de sécurité qui veillera au bien-être des jeunes et verra à ce que les conducteurs ivres ne prennent pas le volant. Et enfin, 5, assurez-vous qu'il emporte son cellulaire bien chargé. Voilà, donc c'était un article écrit par Jacqueline Simoneau avec la collaboration de Sandra Paré, conférencière et auteure des livres « Guide du savoir-vivre pour les filles et les garçons » aux éditions La Semaine. Et cet article était tiré du magazine Le Bel Âge de mai 2015.
Raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaires, il n'épargne personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cachent les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail.
sachet ou bien des comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée. Mais certains soirs, ils se demandent à quoi ça rime. Et certains soirs, on le voit seul au fond du gym. Alors, ils poussent, poussent, poussent de la fonte pour oublier la honte. Alors, ils poussent, poussent, poussent de la fonte. Maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou et n'a rien à son nom. Quand même pas la prison. Mais certains soirs, elle se demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on la voit seule au fond du gym. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Je suis un chanteur populaire qui, au dire de plusieurs, a vraiment tout pour plaire. Derrière ma façade de stoïque belâtre, je suis aussi solide qu'une statue de plâtre. Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde, j'ai tenté si souvent peur de la fin du monde. Oh, oh. Je suis un chanteur populaire et je fais ce que je peux pour ne pas être amer. Lorsqu'ils me font passer par-dessus mes principes pour qu'on joue mes chansons ou mes vidéoclips. Mais certains soirs, je me demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on me voit seul au fond du gym. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. On a tous sur le cœur un altar et sur les épaules le poids de l'univers. Un effort pour ne pas devenir notre propre poids mort. Mais certains soirs on se demande à quoi ça rime. Et certains soirs on est tout seul au fond du gym. Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte.
Alors je plonge dans la revue Itinéraire et on en est à la troisième semaine de pour parler et terminer d'ailleurs les changements climatiques. Et puis ça se terminera pas avec cet article-ci, non, ça va poursuivre les changements climatiques. Et on va parler aujourd'hui des victimes du climat. On parle changements, mais il y a des victimes là. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs et c'est un article qui a été écrit par Nafi Alibert dans la revue Itinéraire, ça rime. Ils sont de plus en plus nombreux à fuir la montée des eaux ou des conditions météorologiques extrêmes. Le changement climatique ne remet pas uniquement l'avenir de la planète en question, mais aussi celui des populations forcées d'abandonner leur foyer pour des raisons environnementales. Selon le dernier rapport annuel du Conseil norvégien pour les réfugiés, 22 millions de personnes ont été déplacées à la suite de désastres naturels en 2013.
22 millions?
C'est du monde à la messe, ça, monsieur. Ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques seraient toujours aujourd'hui trois fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. Or, aucune protection juridique internationale n'existe pour accorder l'asile à ces réfugiés d'un nouveau genre. Quel statut accorder aux personnes qui se déplacent pour des raisons climatiques? Maître Sonia Labranche se penche sur la question depuis quelques années. Je n'aime pas du tout le terme « réfugié climatique », tient à préciser l'avocate spécialisée en droit international. À la place, elle préfère parler de déplacés environnementaux. Oh. Mais quelle différence? Un réfugié sort de son pays alors qu'il est très rare que ces personnes franchissent une frontière, commence-t-elle. Ce sont donc principalement des déplacés. Lorsque Maître Labranche sera en Asie pour ses travaux, elle rencontre des Bangladais qui avaient été contraints de quitter leur région à cause de l'érosion. Et la rivière avait emporté leur maison traditionnelle et ils avaient trouvé refuge dans un bidonville de Dhaka, la capitale du Bangladesh. La notion de déplacés environnementaux inclut les victimes de tout type de bouleversements de l'environnement qui ne sont pas nécessairement liés au changement climatique, précise-t-elle. Du simple au double. En considérant des accidents technologiques comme la catastrophe de Tchernobyl ou des inondations volontaires, les déplacés environnementaux représentent un plus grand nombre de personnes que les réfugiés climatiques. L'absence de définition de ces déplacés explique le fossé entre les estimations. Quand l'ONU prédit qu'ils seront 250 millions, oh. Les experts les plus pessimistes avancent le nombre d'1 milliard d'ici 2050. Aucun pays ne sera épargné. On ne peut plus se cacher face au changement climatique. Il faut s'adapter et permettre aux personnes de se déplacer de façon volontaire et pas juste lorsque la catastrophe arrive, souligne Maître Labranche. Il faut s'adapter, mais jusqu'où? Qu'adviendra-t-il des populations vivant dans le Pacifique? Quand la montée des eaux aura totalement noyé leurs îles? Ils n'auront pas d'autre choix que de trouver refuge à l'extérieur de leur pays. Et cela amène une question encore plus grande. Si un territoire disparaît, est-ce qu'on pourra relocaliser toute une population sur une même terre pour qu'elle puisse garder son identité culturelle et sa nationalité? Il faut penser à ces questions dès maintenant, soutient Maître Labranche, qui aimerait participer à l'élaboration de solutions pour planifier ces migrations inéluctables avant qu'il ne soit trop tard. Je ne crois pas à la signature d'une convention internationale où tous les États s'entendront ensemble. La solution passe par l'adaptation au changement climatique, pense Maître Labranche. Et selon elle, chaque État devrait essayer de planifier les migrations à l'intérieur de leur pays et tenter d'établir des ententes avec les pays voisins qui pourraient accueillir les futurs déplacés de l'environnement. Hein? Alors, il y a, pour aider au changement climatique, le fameux protocole de Kyoto.
Oui.
Ces réunions. Ben, on a commencé à en faire en 1997. 160 pays s'entendent pour réduire les émissions de GES de 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. En 2001, les États-Unis se retirent du protocole de Kyoto. Le plus gros producteur de GES au monde à l'époque renonce à limiter ses émissions, prétextant que cela va à l'encontre de ses intérêts économiques. En 2002, l'Islande est le 55e pays à ratifier le protocole de Kyoto et la première des deux conditions majeures pour l'entrée en vigueur du protocole est remplie. En 2005, la Russie ratifie à son tour le protocole de Kyoto en 2004. Et désormais, l'ensemble des pays ayant fait de même représente plus de 55 % des émissions mondiales. Le protocole entre en vigueur en février 2005. Et l'événement est souligné à la conférence de Montréal. En 2006, la Chine devient le premier pays émetteur de GES. En 2007, entente des pays sur une feuille de route pour décider de l'après-Kyoto, puisque le protocole prend fin en 2012. Ensuite de ça, en 2011, le Canada est le premier pays à sortir de Kyoto. Les objectifs de réduction feraient perdre des emplois, dit Ottawa. Et finalement, en 2015, plusieurs scientifiques à travers le Canada ont créé une étude relative aux solutions possibles pour limiter les impacts des changements climatiques. La conférence de Paris a pour ambition d'aboutir à un nouveau protocole visant à réduire le réchauffement global à 2 degrés centigrades. Alors voilà pour les changements climatiques.
Croyez-vous que nous pourrons sauver la Gaspésie, Serge?
Ah, la Gaspésie.
Alors, quelques brèves. Deux nouveaux spectacles au Planétarium. Le nouveau Planétarium, ouvert depuis plus d'un an et demi, a renouvelé sa programmation et propose deux nouveaux spectacles dans ses salles toutes neuves. Dans le théâtre du chaos, les spectateurs ne se font pas prier pour s'étendre sur les beanbags, ces fauteuils mous, depuis lesquels ils regardent l'écran hémisphérique au-dessus de leur tête. Vertige est une expérience de haute voltige, philosophique, scientifique et émotive. D'une durée de 20 minutes, accompagnée d'une trame sonore parfaite, la projection questionne le rapport au temps en nous en mettant plein les sens. Dans l'autre salle, on retrouve un spectacle un peu plus traditionnel, mais oubliez les anciennes présentations très scientifiques qui ont longtemps fait les heures du Planétarium. Tempo est une présentation assez basique de quelques grandes notions d'astronomie avec une narration faite en direct. On sent que le nouveau Planétarium veut élargir son public au lieu de nourrir les convaincus pour susciter de futurs intérêts pour le ciel. Alors le Planétarium est ouvert du mardi au dimanche dans l'espace pour la vie.
Alors moi, je veux un petit cours d'histoire avec le hockey, Serge. Oh. Oui. Les Maple Leafs jettent l'éponge pour la 9e fois en 10 ans. C'est un vrai calvaire. Ils sont exclus des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Leurs partisans exaspérés devront encore attendre avant de rêver à la Coupe Stanley. La dernière remportée par l'équipe remonte à 1967. Or, cette année-là, l'un des défenseurs des Leafs était un certain Tim Horton, fondateur d'une populaire chaîne de café. Le litre d'essence coûtait 7 cents. Le premier guichet automatique entrait en service. Les Beatles lançaient l'album Sgt. Pepper. La tour CN, symbole de Toronto, n'était même pas sur les planches à dessin. Elle a été inaugurée en 1976. Pierre Elliott Trudeau n'était pas encore premier ministre. Son fils Justin n'était pas né. Et Elvis Presley épousait Priscilla. C'était en 1967. Ouais. Dernière Coupe Stanley de la Maple Leafs.
Et puis moi, je vous propose de vous parler de l'arbre. Le plus grand arbre est né d'une graine menue. Oui. Et le plus bel arbre a besoin de culture. C'est Voltaire qui a dit ça.
Oui.
Et chaque arbre est le symbole vivant de la paix et de l'espoir. Wangari Mutamatai qui a écrit ça. Et l'arbre devient solide sous le vent. Sénèque! Et Jules Renard dit un paysan, c'est un tronc d'arbre qui se déplace.
Oh! Oh!
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et on recommence avec un crayon. Un crayon, pourquoi faire?
Crayon, pourquoi faire? Pour écrire, voyons.
C'est ça. Tablette numérique d'un côté et crayon de l'autre. Les élèves de deuxième année de l'école Marguerite Bourgeois à Pointe-Claire, près de Montréal, écoutent religieusement les consignes de leur enseignante. Comme la plupart des élèves du même niveau, ces enfants de 7 ou 8 ans viennent d'apprendre à écrire en lettres attachées. Mais ils font partie des rares au Québec à avoir accès à une tablette ou à un ordinateur dès le premier cycle du primaire pour les aider notamment dans l'apprentissage de l'écriture. Il faudrait que j'apprenne la lecture. Ils doivent ce privilège à leur enseignante Audrey Allard qui a intégré la technologie à sa pédagogie il y a 2 ans et qui ne reviendrait pas en arrière. L'école, dit-elle, ce n'est pas du « one size fits all ». Oh. La technologie me permet de personnaliser mon enseignement, de mieux aider les élèves en difficulté, aussi bien que les surdoués. Si un enfant maîtrise la grammaire mais a du mal à écrire en lettres attachées, est-ce si dramatique de ne pas insister? Depuis septembre, 43 États américains privilégient l'apprentissage de l'écriture au clavier plutôt qu'à la main. De son côté, la Finlande tirera définitivement un trait sur l'écriture manuscrite dès la rentrée 2016. Au Québec, le programme de français du primaire ne recommande pas une écriture en particulier. Pour l'heure, la plupart des élèves québécois apprennent à écrire en script, caractère d'imprimerie en première année, puis en cursive, lettres attachées, en deuxième, bien que le modèle ne soit pas unique. Mais le débat polarise le milieu de l'éducation à l'ère numérique. A-t-on encore besoin de savoir écrire en lettres attachées? Titulaire de la chaire de recherche sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant de l'Université de Sherbrooke, Marie-France Morin est claire. La recherche démontre que l'abandon de l'enseignement de l'écriture manuscrite pénalise les enfants. Par ailleurs, l'enseignement de deux types d'écriture semble être le pire modèle de tous. Dans une étude publiée en 2012, qu'elle a menée avec Isabelle Montesino-Gelais et avec Nathalie Lavoie, la chercheuse établit que les enfants réussissent mieux lorsqu'un seul type d'écriture manuscrite est enseigné. Apprendre à tracer des lettres demande beaucoup d'énergie à l'enfant, dit-elle, comparant cet effort à l'apprentissage de la conduite automobile pour un adulte. Si on apprend un type d'écriture en première année, puis un autre un ou deux ans plus tard, on bloque la réussite scolaire de l'enfant en détournant son attention de l'orthographe ou du vocabulaire, entre autres. Quant à savoir lequel des deux types privilégiés, la prudence est de mise. Le nombre de recherches sur la question n'est pas suffisant pour nous permettre de dire que l'un est meilleur que l'autre, affirme-t-elle. Pour Thierry Carzenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation à l'Université de Montréal, ces questions relèvent d'un faux débat. L'écriture à la main, ça ne va pas mourir demain, dit-il. Le problème, c'est que les jeunes ne veulent plus écrire du tout. Il constate que les élèves québécois font moins de fautes et sont plus créatifs lorsqu'ils utilisent un ordinateur, à condition que l'enseignant les accompagne, notamment en leur montrant le bon usage des logiciels de correction. Les enfants écrivent avec un peu plus de plaisir au clavier, observe le chercheur. La technologie n'est pas une panacée, mais on devrait lui donner plus de place à l'école. La situation est déséquilibrée actuellement. On ne jure que par le papier et le crayon, alors que les élèves n'ont jamais fait autant de fautes. Mais l'absence de directives claires de la part du ministère de l'Éducation rend difficile l'atteinte d'un équilibre entre la technologie et le crayon, entre l'apprentissage de l'écriture, observe l'enseignant et spécialiste. C'est de l'improvisation. Le ministère doit mettre fin au flottement, dit l'enseignant Pierre Poulin, cofondateur d'e-class, un modèle pédagogique d'intégration des technologies de l'information et de la communication au primaire. L'école doit certainement s'adapter à la modernité, croit aussi Marie-France Morin. Or, le programme de formation de l'école québécoise qui guide les enseignants du primaire et du secondaire date de 2001. Il s'en est passé des choses depuis, à la fois du côté de l'évolution technologique et de la recherche sur l'apprentissage de l'écriture. En 2013, le ministère de l'Éducation a bien produit un document mettant en question la pertinence de maintenir les deux formes d'écriture manuscrite, mais il a eu un effet limité, dit-elle. Il faudrait que le ministère poursuive ce travail de réflexion pour accompagner réellement les enseignants. Selon une porte-parole du ministère de l'Éducation, ce dernier suit de près l'évolution des travaux en matière d'apprentissage de l'écriture, mais considère que des recherches plus approfondies sont nécessaires avant de prendre position en faveur de l'une ou l'autre forme d'écriture. L'apprentissage de l'écriture demeure l'un des principaux enjeux de l'école, estime Marie-France Morin. C'est souvent ce qui va déterminer si un enfant décrochera ou s'il restera à l'école. Un défi non négligeable. Un crayon. Pourquoi faire? Le texte dont je viens de vous parler se trouve dans l'actualité du 15 mai. Il est signé par Martine Roux.
L'heure est maintenant vivre avec un enfant différent. Sacha, 5 ans, et ses parents arrivent au magasin de chaussures. Ils veulent lui acheter une nouvelle paire de souliers. Au lieu de se contenter de retirer ses bottes, Sacha veut tout enlever, manteau, tuque, cache-colle. À bout de souffle, ses parents finissent par le laisser faire. Lorsque vient le moment de se rhabiller, il ne veut pas et fait une crise. Impuissant, les parents se sentent gênés devant le regard des clients et du commis. Ce que les témoins de cette scène ne savent pas, c'est que Sacha est un enfant atteint de troubles du spectre de l'autisme, le TSA comme on dit. Sacha n'a pas la même compréhension qu'un autre enfant. Pour lui, lorsqu'il enlève ses bottes, il retire également ses vêtements d'extérieur, comme lorsqu'il arrive à la maison, c'est sa routine. Et habituellement, il ne remet pas ses vêtements d'extérieur après être arrivé. Alors pourquoi le faire à ce moment? Hors de sa routine, ça ne fonctionne pas pour lui. Le résultat pour lui, c'est une panique intérieure qui tourne en crise. Pour les parents d'un enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, ces moments de crise, de jugement et de regard d'incompréhension font partie de leur quotidien. Même si on entend de plus en plus parler du TSA, la réalité quotidienne des parents demeure méconnue. Lorsque le diagnostic tombe, ils sont souvent laissés à eux-mêmes, avec leurs angoisses face à l'avenir de leur enfant et du leur. C'est tout un changement de perspective qui doit s'effectuer pour eux. Leur enfant pourra-t-il seulement travailler un jour, être autonome ? Et ces angoisses viennent influencer la relation à l'enfant, aux autres enfants de la famille, et peut également ébranler le couple. Malheureusement, la liste d'attente pour des traitements est très longue. Pourtant, des études montrent que plus l'intervention est faite tôt auprès de ces enfants, meilleures seront les chances d'amélioration. Alors, imaginez un moment d'angoisse des parents durant cette attente. Ceux qui peuvent se le permettre financièrement iront chercher des ressources dans le secteur privé, psychoéducateurs, ergothérapeutes. Les parents vivent souvent avec leurs enfants sans connaître de répit. Le diagnostic de ces enfants n'est pas écrit sur leur visage, mais lorsque le diagnostic tombe, comme c'est un trouble encore méconnu, ça fait souvent peur aux gardiennes potentielles. En effet, la différence fait peur et fait réagir. Est-il bien nécessaire de jeter des regards ou de faire des commentaires moralisateurs à ces parents déjà éprouvés ? Pourquoi ne pas chercher plutôt à être empathique à l'égard de ce qu'ils vivent ? Même si on ne sait pas si l'enfant a une difficulté particulière ou pas, l'attitude de chacun peut faire toute une différence. Un sourire, un regard compatissant, une phrase d'encouragement. Mais pour ces parents, sortir de l'isolement peut être d'un grand secours pour toute la famille. Oser sortir avec son enfant dans les lieux publics, restaurants, voyages, etc. Consulter un psychologue pour parler de ce que ça fait vivre tout ça. Faire partie d'un réseau d'entraide. Aller vers des ressources privées comme les psychoréducateurs. Pour vaincre la peur du jugement des autres, une mère est partie en voyage avec son fils en lui épinglant une étiquette sur son chandail. « Bonjour, mon nom est Steve et je suis autiste. Tous les moyens sont bons pour trouver un équilibre familial. » Voilà, c'est un article écrit dans le Journal de Montréal du 21 avril 2015.
Deixa a tristeza pra lá.
Quando tu chanta, ça va. Quando tu chanta, ça va.
A vida vai melhorar. A vida vai melhorar.
Un jour pour l'amour éternel, pour le tour du monde, pour le tour du monde. Un jour pour les filles qui sont belles, et la route longue, et la route longue.
Ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante esta moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Quando tu chanta, tu ne sais pas pourquoi. Quando tu chanta.
Vai melhorar, a vida vai melhorar.
Quando tu chanta, ça va. Quando tu chanta, ça va.
Quem canta seus males espanta. Lá em cima do morro, o sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um samba alento e um partido alto.
Un jour pour le temps qui passe, pour un jour de fête, pour un jour de fête. Pour chanter ce qu'on a de la tête, on n'a pas besoin d'être un vrai poète.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar.
Quando tu chanta, ça va.
Mas será que vai melhorar?
Quando tu chanta, ça va.
Mas é claro que vai melhorar. A vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá.
canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Alors c'était Nana Mouskouri qui chantait « Quand tu chantes, ça va » et c'est une belle introduction pour mon texte qui s'appelle « L'ordre au quotidien ». Donc quand tu chantes en faisant ton ménage, ça va sûrement mieux.
Ah, c'était sifflé avant, et maintenant c'est chanté.
C'est chanté, je crois.
Ah bon ?
Alors, l'ordre au quotidien. Le printemps nous donne des envies d'ordre et de ménage. La japonaise Marie Kondo s'est spécialisée dans le rangement chez les autres, véritable mode de vie pour elle. Son livre, Le pouvoir étonnant du rangement, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde et figure sur la liste des best-sellers pratiques du New York Times. Marie Kondo, qui vient d'être choisie comme l'une des 100 personnes les plus influentes dans le monde par le Time Magazine, excelle dans le rangement depuis qu'elle est toute petite. Elle en était même obsédée, au point d'en avoir fait sa profession, d'avoir monté une entreprise prospère et développé sa propre technique, la méthode KonMari, K-O-N-M-A-R-I. Son approche, considérée par les Américains comme l'art japonais de désencombrer et d'ordonner, s'apparente selon elle à de la magie. Il s'agit d'un guide permanent, il s'agit d'un guide permettant d'afficher le bon état d'esprit pour créer de l'ordre et devenir une personne ordonnée, écrit-elle. Dominique Laureau, française expatriée au Japon, a publié de nombreux ouvrages, notamment sur l'art de la simplicité, de l'essentiel et des listes. Elle reconnaît que les Japonais, plus que les gens de toute autre nationalité, vouent un culte à la propreté, comme s'il s'agissait d'une question morale. C'est influencé par le zen, c'est une question de pureté, de propreté, d'intégrité et d'honnêteté. Alors, pour Marie Kondo, jeter l'inutile ne fait pas. Marie Kondo ne fait pas dans la dentelle. Quand elle range, c'est une razzia. Sa méthode du premier tri consiste à ranger par catégorie et non par pièce, du facile au plus difficile. Les vêtements, les chaussures, les livres, les papiers, les objets, les photographies. Le mot d'ordre, jeter. Et que jette-t-on ? Ce qui ne nous émeut pas ou ne nous rend pas heureux. Selon sa philosophie, tout ce qui ne nous met pas en joie doit prendre la direction du sac poubelle. Par exemple, inutile selon elle d'avoir une catégorie de vêtements moins beaux ou passés de mode pour porter dans la maison, car ils sont justement trop vieux et n'aident en rien l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour arriver à bien jeter, il faut étaler par terre tous ces vêtements et ceux de toutes les saisons de manière à tout voir ce que l'on possède pour faire un bon tri. Dans le placard, il faut aussi songer à la symétrie des morceaux pour avoir davantage de plaisir à ouvrir notre garde-robe. Les vêtements les plus courts à droite et les vêtements les plus longs à gauche. Dans son livre, Marie Kondo explique, entre autres, comment plier et ranger debout au lieu d'empiler, comment ranger les papiers et surtout quel papier conserver, comment vider son sac à main et son cartable tous les soirs, comment ranger les petits objets de tous les jours. Bref, comment acquérir pour toujours une philosophie de l'ordre au quotidien. C'était donc écrit par Marie-France Léger dans La Presse Plus du 21 avril 2015. Pour
ceux et celles qui auraient un petit goût de céréales, alors ils ont fait un test de céréales. Imaginez-vous donc. Dans la revue Protégez-vous. Eh bien, c'est encore trop sucré. Oui. Les céréales peuvent constituer un bon petit déjeuner à la condition de les choisir riches en fibres et ni trop sucrées ni trop salées. La rangée des céréales ne cesse de s'allonger. Elle compte désormais, attention, près de 400 produits, contre environ 325 lors de l'évaluation précédente en février 2013. Si nous avions conservé les mêmes critères, ça c'est Protégez-vous qui dit ça, que la dernière fois, nous aurions pu recommander près de 60% des produits. Or, nous avons plutôt choisi de resserrer les mailles du filet pour faire la chasse au sodium qui prend parfois trop de place dans les boîtes de céréales. Et résultat, à peine 4 produits sur 10 sont dignes de se trouver dans votre garde-manger. Bon, alors, si vous faites le ménage, d'après Marie Kondo, là, alors vous pouvez jeter des céréales.
Absolument.
Hein? Alors, les meilleurs choix renferment 10 grammes ou moins de sucre par portion de 55 grammes et les bons choix 15 grammes ou moins. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le sucre ajouté ne doit pas dépasser 10 % des calories consommées quotidiennement. Cela équivaut pour un adulte à environ 50 grammes ou 13 cuillerées à thé et pour un enfant à 25 grammes ou 6 cuillerées à thé. Or, malgré les mises en garde de l'OMS contre le sucre, l'industrie propose des céréales plus sucrées qu'il y a 2 ans. À l'époque, près de 45% des produits contenaient 10 grammes ou moins de sucre, alors qu'aujourd'hui, ce nombre n'atteint pas 41%. Nous avons même trouvé des céréales renfermant plus de la moitié de leur poids en sucre. Des céréales bonbons. Le pire choix à ce chapitre, prenez-le en note, le pire est le délice soufflé au miel de la marque Sally's Céréales avec 31 grammes de sucre, soit presque 8 cuillerées à thé. Le miel n'y est pas pour grand-chose puisqu'il apparaît après le sucre et le sirop de maïs dans la liste des ingrédients. Et à l'inverse, 25 variétés évaluées sont sans sucre et c'est le cas par exemple de QIA, ou Kwai et Superfood original de Nature's Path. Vous les trouvez fades? Ajoutez-y 65 ml, un quart de tasse de fruits frais, qui vous fourniront aussi des fibres, ou 1 à 2 cuillerées à thé de miel ou de sirop d'érable, un choix plus sain que les édulcorants qui entretiennent inutilement votre goût pour le sucre. D'ailleurs, tous les produits que nous recommandons ne contiennent pas d'édulcorants. De bonnes céréales doivent fournir des fibres pour ne pas que la faim vous rattrape avant l'heure du lunch. De plus, les fibres réduisent la constipation, les risques de maladies cardiaques, de diabète, d'obésité et de certains types de cancers. Une femme adulte devrait en consommer quotidiennement 25 grammes en moyenne et un homme 38 grammes. Nous avons donc fixé la barre à 6 grammes par portion pour les meilleurs choix et à 4 grammes pour les bons choix. Les fibres, devraient provenir en priorité de grains entiers. C'est notamment le cas des shredded wheat et bran, spoon size de Post, qui occupent le premier rang de votre palmarès et des spécial cas protéines de Kellogg's. Un conseil, lisez toujours la liste d'ingrédients et pour éviter les produits raffinés, recherchez la mention « entier » pour le blé et l'orge ou encore son de blé. Les céréales d'avoine et de millet sont toujours faites des grains entiers. Le sarrasin et le quinoa constituent également des sources intéressantes de fibres, de même que les graines comme le lin, le chanvre et le chia. Ouais. Alors, protéines du matin. Un petit déjeuner devrait apporter entre 12 et 15 grammes de protéines, soit environ le tiers de vos besoins quotidiens. La tasse de lait, 250 ml, que vous êtes susceptible d'ajouter à votre bol de céréales, en contient 8 grammes. Ainsi, votre portion de céréales devrait fournir le reste, soit un minimum de 4 grammes de protéines, à moins que vous n'ajoutiez une autre source de protéines à votre déjeuner, comme du beurre d'arachide, des noix ou du yogourt. Et en privilégiant nos meilleurs choix, vous vous assurez de consommer entre 5 et 20 grammes par portion, la variété la plus protéinée étant la Marie-Jeanne juste du chanvre de Happy Foods. Quel nom étrange! Bon, alors le test des céréales, les meilleurs choix, il reste 1 minute. Sortez vos crayons ou votre tablette.
Tablette, oui.
Tablette à gauche, crayon à droite, c'est ça que vous avez dit?
C'est ça.
Bon.
À l'école.
Alors, le meilleur choix, OK, pour 48 cents par portion de 55 grammes, c'est le Post de Shredded Wheat et Bran Spoon Size.
Mm-hmm.
Ouais. Le deuxième choix, Nature's Path Eco Pack Camut Soufflé. Ça revient à 97 cents par portion de 55 grammes. Nature's Path, qui a, on l'a mentionné, Superfood Original en troisième position, mais lui, il revient à 2,22 $. Oui. Pour pas beaucoup de grammes, hein? C'est, ben, 55 grammes, comme les autres. Ensuite, en quatrième place, Post Shredded Wheat Original. Alors, si vous entendez bien, le Post Shredded Wheat également en cinquième. Donc, on a, sur les cinq premières positions, on a les Post.
Ben oui.
Hein? Ça vous dit quelque chose,
ben
ça?
Oui.
Hein, Post? Et puis, en sixième place, pour terminer, Artisan Tradition Biologique Quinoa Soufflé Bio.
Monsieur Fauteuil.
Hein, c'est tout un titre, ça?
Oui.
Mais il est cher. 2,52 $ par portion de 55 grammes. Alors, moi, je vous suggère le Pulse Shredded Wheat et Round Spoon 16 pour 48 cents la portion. Bon appétit.
Parlant sucre, la menace venue du sud. Les cabanes à sucre du nord-est des États-Unis tournent à plein régime à un point tel qu'elles menacent l'hégémonie du Québec sur le marché mondial du sirop d'érable. Les acériculteurs américains ont plus que doublé leur production en 15 ans. Celle-ci a atteint 34 millions de livres en 2014. La production québécoise, trois fois plus importante, a toutefois progressé à un rythme beaucoup plus lent. Du coup, la mainmise du Québec sur le marché mondial de l'or sucré a chuté, passant de 81 % à 71 % de 2000 à 2014. Selon une étude récente commandée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la part québécoise pourrait tomber à 63 % en 2018. Faut-il sonner l'alarme? Non. Soutient Paul Rouillard, directeur général adjoint à cette association de la Fédération. On assiste à une légère érosion de la position dominante du Québec, mais nos acériculteurs font de plus en plus d'argent qui va s'en plaindre. Le prix du sirop d'érable a en effet doublé depuis 15 ans, porté par une hausse soutenue de la demande partout dans le monde, et les producteurs québécois qui vendent plus de la moitié de leur sirop aux Américains pourraient regagner du terrain aux États-Unis en 2015 en raison de la baisse du dollar canadien qui rend le sirop québécois plus abordable pour les consommateurs américains.
Oui, alors maintenant à propos de la nature, quelques phrases écrites, la première par Pierre-Auguste Renoir. Il écrit « Vous arrivez devant la nature avec des théories, la nature flanque tout par terre ». Une autre écrite par Voltaire, « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit ». L'essentiel est d'être ce que nous fit la nature, on n'est toujours que trop ce que les hommes veulent que l'on soit. Ça c'est Jean-Jacques Rousseau. Et enfin, l'art est une démonstration dont la nature est la preuve, c'est Georges Sand.
C'est beau, hein? Les actualités maintenant dans billet d'avion, le temps c'est de l'argent. Combien de jours à l'avance devriez-vous acheter un billet d'avion pour vous assurer de payer le moins cher possible? Eh bien, si vous allez au Canada plutôt, c'est 47 jours avant le départ si votre destination est au Canada ou aux États-Unis. Et puis après ça, c'est... Par contre, si vous quittez le continent, mieux vaut vous y prendre plus tôt, près d'un an à l'avance dans certains cas. Alors, si on va au Mexique, 51 jours. Ouais. En Amérique du Sud, 96 jours.
Et en France?
En France, en Europe, 276 jours.
Oh là là!
Oui, alors trop tard. Moyen-Orient, 213 jours.
Ah oui?
Oui, je le sais, j'ai acheté un billet. Afrique, 262 jours.
Hein?
Ouais. Alors en Amérique du Sud, 96 jours. On a fait le tour.
Ouais. Bon, maintenant, au voleur. Une entreprise française a conçu une pédale de bicyclette dotée d'une puce qui alerte son propriétaire par téléphone dès que le vélo change de place. On y a même intégré un capteur GPS qui permet de repérer le deux-roues en cas de vol. On n'arrête pas le progrès, hein?
Non.
57, c'est le nombre de stylos Bic Cristal qui se vendent par seconde dans le monde, ce qui en fait le stylo le plus populaire sur la planète. Le fabricant célèbre cette année son 65e anniversaire. 57 stylos Bic Cristal.
Oui, mais ça va devenir quoi avec la tablette?
Ah, c'est la question qu'il faut. Tout le monde doit s'interroger là-dessus.
C'est terminé.
C'était le Kiosque Magazine du 11 mai que nous avions vous proposé. Oui. Ici France Léniuviard, Serge Hamelin et Roger Roux, à nouveau disons.
À la semaine prochaine.
À une prochaine fois,
ah,
peut-être.
Ah ben non, dans deux semaines.
Dans deux semaines, voilà.
Puisque lundi, c'est férié.
La fête des patriotes.